philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 24 septembre 1997, à Saint-Jeudard.
D'abord, un bonjour pour tous ceux qui commencent. Et pour les autres, on va creuser davantage. Bah, n'oubliez jamais que un cours, selon le De Magistro de Thomas d'Aquin, de petit opuscule, il faut avoir lu dans sa vie, hein. Aussi bien ceux qui enseignent que ceux qui écoutent, pour comprendre que le point de vue de l'enseignement est une coopération.
Conscience. Elle n'a pas de...
fois, on est tout de suite un adulte. Parce qu'on est un petit enfant. Près de la foi, c'est Dieu. Le Fils de Dieu m'est donné. Et il est Dieu. Pour que je saisisse tout de suite Dieu. Que je rencontre Dieu. C'est le propre de la foi. Tandis que l'intelligence, qu'est-ce qu'elle rencontre en premier lieu ? La première personne que nous avons rencontrée, c'est notre mère. Puis, c'est le père. Puis, c'est le petit frère ou le grand frère. Puis, c'est les amis. Saint-Jodin, et Saint-Jodin, ah oui, c'est ce lieu curieux Ça devrait être le caractère particulier de nos litanies, pourtant. Non, on le fait pas parce qu'on ne sait pas. On le recherche. On pourrait faire des études pour voir exactement qui est le Saint Jonas. Toutes vos expériences touchent le devenir. Et à travers ces expériences, votre intelligence va s'éveiller. Et votre intelligence s'éveille quand elle dépasse le devenir pour atteindre ce qui est. C'est très curieux, ça. Et au fond, pour l'Inde, on verrait quelque chose d'analogue. Je crois que l'être et le devenir, c'est quand même ce qui nous donne de la manière la plus radicale la découverte du bien de mon intelligence, la vérité au niveau de l'être. Au niveau du devenir, il y a bien une vérité, mais elle change. Chaque fois que vous faites la route de Lille-Saint-Jonas, en été, au printemps, en hiver, ça change. Le matin, la nuit, c'est plus la même chose. Et pourtant, c'est toujours Saint-Jonas. Et c'est toujours Meulise. Mais à la place de l'être, il y a des noms qui indiquent une localité. Et c'est l'être de Meulise. Meulise, c'est pas Saint-Jonas. Alors c'est un tout, c'est difficile à préciser, surtout au début, quand on ne sait pas. Notre philosophie est née de la Grèce. Les Grecs, à ce point de vue-là, sont pour nous les êtres cultivés qui ont commencé par faire de la philosophie. Quand la Grèce faisait la théologie, la Gaule était dans un triste état au point de vue philosophique. C'est pas exactement. Il y a eu ce phénomène grec curieux auquel on revient tout le temps. Et très vite, vous verrez l'histoire de la philosophie grecque qui est le fondement auquel on revient tout le temps. De la République qui a dit tout change. Il a fait comme Héraclite, tout change. Mais moins profond qu'Héraclite, c'était répété. Et puis il y en a un autre qui découvre l'être, Parménide, les deux colonnes en Grèce. 500 ans, 400 ans. Historique qui est assez volumineux. Presque 2000 ans de christianisme, 500 ans, 600 ans, 700 ans de réflexion philosophique avant. 2700 ans. C'est pas si mal. Mais il faut comprendre. Et Héraclite, Parménide, Aristote, Platon, Platon et Aristote. Et ce sont des problèmes semblables. Et puis alors, le phénomène énorme de la révélation chrétienne. Alors là, pour le philosophe, si le philosophe est intelligent et qu'il s'intéresse à l'homme, le philosophe devrait s'arrêter à ce phénomène extraordinaire qui a eu lieu dans un petit pays très particulier. Cet homme qui s'est dit: je suis la voix, la vérité, la vie. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Jésus ne fait pas partie des philosophes, mais il touche le cœur de l'homme d'une autre manière. Il cherche la vérité. Phénomène de la révélation chrétienne avec le Christ représente quelque chose d'inouï. Nous avons tout le développement de la théologie chrétienne qui assume la philosophie grecque. Cette chose très très curieuse, cette coopération unique de Pierre qui va à Rome. Pierre, disciple de Jésus, qui, dans sa fidélité au Christ, quitte Jérusalem et va à Rome, entraîné par un autre qui est citoyen romain tout en étant juif et converti. Il y a trois choses en lui. Le juif enraciné dans son peuple, citoyen romain, donc pour la modernité, aspects, et qui fait que le christianisme se développe dans l'Europe. Et alors un moment de crise dans la culture chrétienne, c'est Descartes. Et tout ce qui est autour de Descartes, la naissance lourd sur la liberté de l'intelligence, recherche de la vérité. découvrir, après Descartes, la distinction raison et entente et intellectus. Redécouvrir le mode humain d'être intelligent sans perdre l'intelligence. Parce que certains veulent tellement être fidèles au mode humain qu'ils oublient ce que c'est que l'intelligence. La fidélité au mode humain d'être intelligent, c'est la logique et la raison. Et ce qui est très curieux, c'est qu'au fond, les petits-enfants de Descartes, les arrière-petits-enfants, préfèrent la logique à la recherche de la vérité. Oui, avec Descartes, il y a ce problème qui est au fond très important, d'un peu le déplacement, ce n'est plus le devenir et l'être. Ça n'a pas tellement inquiété Descartes, ça l'a inquiété. Mais c'est pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est la transposition de ce devenir et l'être dans l'entendement humain. Ce qu'on dira la phénoménologie ensuite. Cogito. Aristote n'a jamais dit cogito. Descartes a besoin de l'affirmer pour être sûr qu'il cogite. Tandis qu'Aristote n'a pas besoin. Il sait bien qu'il cogite, parce qu'il pense, parce qu'il veut contempler, parce qu'il cherche la vérité. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital, ça. Vous voyez, l'angoisse fait qu'on réfléchit toujours sur ce qu'on pense. Est-ce que je pense juste? Est-ce que je dis est vrai? Est-ce que je dis est intéressant? Cogito. Ergo sum. Oui, je ne suis un homme que si je cogite. C'est pour ça que c'est très important. Il y a le ergo pour me donner la certitude. Donc je suis. C'est très important de saisir ce tournant où l'intelligence contemplative, la recherche de la vérité n'est plus assez forte, assez conquérante pour trouver son chemin. Et on réfléchit et on se retourne sur la certitude. Ce qui est important, c'est la certitude. Vous comprenez ? La recherche de la certitude devient première quand l'angoisse commence à tout prendre. Et l'angoisse naît le jour où vous confondez raison et intelligence, où il n'y a plus recherche de la vérité. Et s'il n'y a plus recherche de la vérité, on ne s'appuie plus sur la réalité qui existe, mais on s'appuie sur la certitude de sa connaissance. Il y a un ordre tout à fait différent qui se fait, et quelque chose qui devient inquiétant. Et petit à petit, la théologie va elle-même entrer dans ce cogito, dans ce primat du cogito, et non plus le primat de ce qui est. Vous voyez, il y a d'abord une sorte de mort de l'intelligence qui cherche la vérité. Il y a ensuite une sorte de mort de la théologie, parce que la foi qui a un réalisme divin, si elle ne s'unit pas, si elle ne coopère pas avec une intelligence qui cherche la vérité, amis. L'autre qui existe, et non pas ma pensée. Si mon intelligence ne recherche plus la vérité, mon intelligence coopérant avec la foi va relativiser la foi. Et à la place de fortifier ma foi, de permettre à ma foi de passer projet pour le développement d'intelligence. Et on peut dire que Descartes a senti comme si, par la foi, l'intelligence était comme étouffée, repliée sur elle-même. Et c'est vrai. Sur une expérience, elle repose sur une autorité divine. On est par la foi dans la tutelle, une tutelle divine, et donc qui en réalité ne met pas l'intelligence dans une dépendance qui l'empêche de grandir. Mais psychologiquement parlant, elle nous met dans une tutelle. Si je ne vois plus l'aspect contemplatif de la foi devient insupportable pour une intelligence raisonnante qui veut grandir. Il faut essayer de comprendre le phénomène dans lequel nous nous trouvons actuellement. Si on est chrétien, on pourrait dire l'astuce qu'a pris le démon pour supprimer la foi. C'est en supprimant la foi contemplative. Et c'est tellement actuel qu'on voit que dans l'enseignement officiel de la théologie, pas ici, hein, mais dans l'enseignement officiel de la théologie, on ne parle plus de la contemplation. Or, il ne peut pas y avoir de théologie vraie s'il n'y a pas la contemplation. Vous aurez une théologie qui voudra être scientifique par la logique et non plus par la sagesse. C'est la suppression de la sagesse. Et vous n'avez plus que la logique. L'exaltation du conditionnement humain. Parce que c'est ça la logique qui remplace la sagesse. Quand la logique remplace la sagesse, c'est le serviteur qui renvoie promener son maître et qui prend la place. Et tout reste dans un horizon humain et ne dépasse pas cet horizon humain. C'est ça qui est terrible. Et ça, vous voyez, Descartes a mal fait son coup. S'il avait bien fait, ça aurait peut-être été très intéressant. Les révolutionnaires, ordinairement, ont une sensibilité particulière, mais sur un point où il y a eu une erreur, et ce point devient le tout. Et pour Descartes, c'est ça. Ce point devient le tout. On considère que par la foi, on reste sur la tutelle. Mais c'est ce que Thomas d'Aquin dit lorsqu'il dit que la théologie scientifique est subalternée sous la tutelle de la science des saints, de la sagesse des saints. Or, on n'accepte plus la tutelle. On la renvoie. Et on considère que ce qui vient de nous, cogito, c'est le plus important. Ça vient de nous. Donc c'est plus intelligent que ce qui vient de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est pas nous. C'est ça, comme phénomène, qui s'est introduit. Vous voyez, faire le parallélisme entre Thomas d'Aquin et Descartes. C'est très très éclairant pour nous. et la scolastique. C'est vrai. Et la scolastique, c'était Thomas d'Aquin et la logique d'Aristote qui a pris la place de la métaphysique. C'est là où, de fait, les théologiens ont subi une influence de Descartes. C'est qu'à la place de la métaphysique, ça a été la logique. Mais ceci a été avant Descartes. Il y a un théologien qui, en théologien, a été plus loin que Descartes. Siècle. Et pour Occam, il n'y a plus de métaphysique, il y a une logique. Là, vous voyez cette chose curieuse, hein, c'est qu'au fond, le phénomène de Descartes qui a mis la logique à la place de la métaphysique, en gros c'est ça, qui a mis la certitude à la place de la recherche de la vérité. C'est la métaphysique par la logique. Ça, c'est intéressant, point de vue, l'histoire de la pensée européenne. De voir que la réforme a été préparée au sein de la théologie. Et au sein de la théologie, Occam. Quand on demande à Occam, qu'est-ce qu'il y a de premier dans la vie de l'intelligence? Qu'est-ce que Occam répond? Intelligo. Descartes dira cogito. Occam a gardé encore la distinction ratio, raison et intelligence. Et pour lui, c'est intelligo. Et il ajoute en théologien et amo Socratem. Et j'aime Socratem. Descartes. Posez-vous la question. Et possessez une pensée philosophique en voyant le point de départ et le terme. Et c'est en voyant le point de départ et le terme. Alors, Occam, Descartes ont contaminé la pensée philosophique en laissant la logique prendre la place de la métaphysique. Que nous devons faire. Alors, il y a deux points de vue. Le point de vue philosophique. Nous voyons bien que Descartes, cherchant la certitude, n'a pas été assez loin pour découvrir l'autonomie de l'intelligence. L'intelligence n'est pas autonome parce qu'elle a la certitude. Vous savez bien, il y a des gens dans la certitude d'avoir la vérité et qu'ils ne l'ont pas du tout. La subjectivité peut donner la certitude et non pas la vérité. La différence entre la sincérité et être la vérité. Donc nous devons, au point de vue philosophique, essayer de comprendre le point de départ de la philosophie et son terme. Ceci, c'est au plan philosophique. Nous sommes chrétiens, en majorité. Nous ne sommes pas un institut catholique, mais nous sommes chrétiens. Et nous devons chercher, par le fait même, ce que l'Église attend de nous. Et ce que l'Église attend de nous, le Saint-Père me l'a dit explicitement. Maintenez une recherche philosophique de la vérité et allez jusqu'au bout de cette recherche en maintenant une recherche de la métaphysique. Alors, pour bien comprendre ce désir explicite du Saint-Père, des dernières fois encore, avant qu'il soit très fatigué, enseigne-t-on encore une vraie métaphysique? Il faut à tout prix maintenir cela dans l'Église. Et il a souligné cela. C'est sûr que c'est pas commode dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire. Voyons bien ce que c'est qu'une métaphysique. Nous reprenons une recherche philosophique qui recherche la vérité. Et pour être vraiment étonnamment intelligent. Avicenne est était revenu Aristote. Mais un Aristote qui essayait, pas Aristote lui-même, mais Avicenne, d'assumer par là le néoplatonisme. C'est pour ça qu'on dit à l'Avicenne arabe et l'Avicenne latin, 8e siècle. Et saint Thomas a eu cette audace qui lui a coûté très cher. Il ne faut pas l'oublier, de revenir à Aristote, comme il ne savait pas suffisamment le grec. Il avait demandé à des amis, des confrères, de traduire Aristote pour lui, en latin. Et c'est cela que la Sorbonne n'a pas accepté. On a condamné Thomas d'Aquin, pas l'Église, mais la Sorbonne, qui se considérait comme plus gardienne de la vérité que l'Église. L'Église a considéré que Thomas d'Aquin était docteur de l'Église. L'Église n'a jamais condamné saint Thomas. Elle l'a béatifié. Mais la Sorbonne de Paris n'a pas accepté. La Sorbonne a toujours une vieille rogne par rapport à ça. Plus maintenant. C'est le grand progrès de ce siècle pour la Sorbonne. Avant, c'était Descartes. Parce que fils de la Sorbonne, on a condamné Thomas d'Aquin de passer du croyant au païen. Avicenne est un croyant. Il a la foi. Je ne dis pas chrétienne et musulmane. Il a la foi. Et Thomas d'Aquin a aimé plus la vérité. La recherche de la vérité. Pas que la foi, mais à distinguer les deux. La philosophie relève de l'intelligence et cherche la vérité. Et cette vérité, qu'elle soit chez le païen, ou qu'elle soit chez le chrétien, chez le musulman, si elle est plus parfaite chez le païen, c'est là qu'on doit l'apprendre. Si la philosophie d'Aristote est plus parfaite que la philosophie d'Avicenne, on doit choisir Aristote. C'est là l'audace extraordinaire de Thomas d'Aquin. C'est là où Thomas d'Aquin est au-dessus de son époque par la recherche de la vérité philosophique et métaphysique. Il le dépasse. Tandis que la tradition théologique de l'époque de Thomas d'Aquin restait fixée à Avicenne. Albert le Grand, si grand qu'il soit, n'a pas fait ça. Mais, il a défendu son disciple dans cette recherche d'Aristote. Et Albert le Grand avait une renommée que Thomas d'Aquin n'avait pas. Vous voyez, il y a là quelque chose de très important si on veut entrer dans la pensée de Thomas d'Aquin, que l'Église a toujours reconnu. Il y a une sagesse philosophique. Et cette sagesse philosophique, c'est la recherche de la vérité par l'intelligence humaine. Et cette sagesse de la vérité, nous devons la rechercher pour que ma foi de chrétien puisse s'appuyer sur le roc. Je n'ai pas le droit de lier la foi à des opinions, si grandes qu'elles soient. Ma foi repose sur l'autorité divine et l'autorité. une théologie qui est le fruit de philosophie qui reste en dépendance de Descartes, du cogito. Une philosophie qui ne cherche plus en premier lieu la vérité. Alors, est-ce qu'on aura le courage de chercher la vérité philosophique, même si elle n'est pas à la mode du jour? Est-ce qu'on aura le courage de chercher avant